matinale de 18h, Jean-Claude Mabéa.
Au sommaire de cette dernière édition de l'actualité d'ici et d'ailleurs, de ce vendredi sur Radio de la Paix, visite des chantiers de la sortie Est d'Abidjan et de la Y4. Le Premier ministre Robert Begré-Mambé a donné un délai de 45 jours à l'entreprise pour achever les travaux de la Y4. Sécurité routière, les chauffeurs des véhicules administratifs en infraction seront désormais sanctionnés. Ainsi en a décidé le gouvernement ivoirien. Les précisions de son porte-parole, le ministre Amadou Koulibaly, dans cette édition. Et météo, la Sodexam annonce une longue période de sécheresse en Côte d'Ivoire dans quelques mois. Situation liée au phénomène climatique El Niño en cours dans le monde. Les éclairages du directeur de la météorologie nationale à la Sodexam dans ce journal. Et puis, dans l'actualité au Burkina Faso, une manifestation pour dénoncer des restrictions de liberté a été interdite. Voilà pour l'essentiel. Bonsoir et bienvenue à tous. Nous le mentionnons en titre que le Premier ministre ivoirien Robert Begré-Mambé a visité des chantiers de la sortie Est d'Abidjan et de la Y4. Le chef du gouvernement a donné un délai de 45 jours à l'entreprise pour achever les travaux. C'était hier au terme de sa visite d'imprégnation des chantiers de construction. Robert Begré-Mambé que nous vous proposons d'écouter.
Sur la voie Y4 qui fait 26 km pour un montant de 120 milliards, si on tient compte des indemnisations, les travaux sont avancés sur le premier tronçon. Mais le deuxième tronçon nous révèle qu'il y a 5 points critiques pour lesquels le ministre va faire des séances de travail avec l'entreprise adjudicateur de cette zone pour lui donner un délai au bout duquel il doit avoir terminé les travaux. Et je pense qu'au bout de 45 jours, c'est une exigence que nous allons imposer. Nous devons avoir fini les travaux de ce deuxième tronçon qui va faire jonction avec le premier tronçon qui lui est suffisamment avancé.
Le Premier ministre Robert Begré-Mambé, que vous veniez d'écouter. Sur son parcours, le chef du gouvernement a également visité l'échangeur du Carrefour Ndotré à Abobo pour terminer sa visite à l'échangeur François Mitterrand à Cocody. Vie des institutions, le Sénat ivoirien a adopté hier jeudi à Yamoussoukro son calendrier de travail allant de la période du 26 octobre au 19 décembre 2023. Plusieurs projets de loi seront examinés au cours de ces travaux, précise Kandia Kamiso Kambara, la présidente de cette institution.
Le Sénat, notre institution, reste dynamique. Après avoir mis en place les organes, notamment le bureau du Sénat et les commissions permanentes, nous venons à présent d'adopter l'ordre du jour des travaux qui auront lieu du 26 octobre au 19 décembre. Et au cours de ces travaux, nous allons examiner plusieurs projets de loi, notamment le projet de loi portant statut du corps diplomatique, le projet de loi portant statut général de la fonction publique, le projet de loi portant code de l'environnement, le projet de loi portant code de l'eau et le projet de loi portant code de l'hygiène et de la salubrité. En plus de ces projets de loi, nous allons examiner 3 projets de loi de finances, notamment le projet de loi portant règlement du budget 2022, le projet de loi rectificative du budget 2023 et le projet de loi de finances portant budget de l'État pour l'année 2024. Évidemment, il y a d'autres projets de loi qui vont être examinés lorsque le Sénat sera saisi. Je voudrais rassurer que le Sénat demeurera au service de nos populations et le Sénat va contribuer significativement à l'amélioration de la qualité de vie du peuple de Côte d'Ivoire. C'est d'ailleurs tout le sens du bicamérisme.
La présidente de la Chambre haute du Parlement ivoirien, Kandia Kamisoko Kamara, dans des propos recueillis par Émile Yao. Vie des partis politiques, le président du directoire du RHDP, le Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix, Gilbert Kone Kafana, était face à la presse hier jeudi après la 20e réunion du dit directoire. Au menu de cette conférence de presse, le bilan des dernières élections locales et sénatoriales, ainsi que les perspectives pour les prochaines élections, à savoir la présidentielle de 2025 et les législatives de 2026. Écoutons à cet effet Gilbert Kone Kafana, le président du directoire du RHDP.
Les élections locales du 2 septembre 2023 ont permis au RHDP de tester l'efficacité des réformes engagées dans le cadre de la restructuration du parti depuis le 28 février. Les résultats proclamés par la commission électorale indépendante donne 123 communes pour le RHDP sur 201, soit plus de 61%, et 25 régions sur 30, soit un peu plus de 83%. Avec 20 nouvelles communes et 7 nouvelles régions conquises, le parti a consolidé sa position. Il réalise un taux de progression de 15% sur les communes et 23% sur les régions par rapport à 2018. Dans trois régions, il faut remarquer que le parti a fait une performance particulière. Il s'agit des Grands Ponts, le Haut-Sassandra et le Ouro-Dougou. Ces résultats confortent la position du RHDP en tant que parti leader sur le échiquier politique national. Les prochaines étapes sont l'accélération de l'enrôlement des militants et la production et la distribution des cartes des militants. Ces programmes sont urgents pour projeter le RHDP dans la préparation des présidentielles de 2025 et des législatives.
Les propos du président du directoire du RHDP, le Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix, Gilbert Kone Kafana, ont été recueillis par Jean-Mélène Bitti. On s'intéresse à présent à la nomination des femmes ministres et présidentes d'institutions. La FJCI, entendez l'Association des femmes juristes de Côte d'Ivoire, se dit fière et heureuse de ce constat, même si le quota de 30% de représentativité féminine n'est pas atteint. Écoutons à ce propos sa présidente, Maître Francine Aka-Angui.
Au niveau des nominations, ce que nous pouvons constater, c'est que nous n'atteignons toujours pas le quota de 30% de représentativité féminine. Cependant, nous sommes quand même heureuses et fiers de constater que nous avons quand même des femmes ministres, des femmes à des postes de président d'institution, mais le nombre de ces femmes est malheureusement insuffisant. Selon nous et selon même les textes, nous avons quand même une loi qui prescrit 30% de candidatures féminines pour ce qui concerne les élections, mais qui de manière générale s'applique pour la représentativité des femmes.
Et donc, s'il y avait des mesures peut-être coercitives qu'il faille proposer pour un changement, qu'est-ce que vous pourriez dire par rapport à cela?
On ne peut pas proposer de mesures coercitives pour des nominations, mais au niveau des mesures coercitives, comme vous dites, aujourd'hui, la loi prévoit que, en cas justement de participation, c'est-à-dire d'inscription de plus de 30% de femmes sur les listes, les partis politiques bénéficient de mesures d'accompagnement financier. Mais si cette prescription légale n'est pas respectée, il n'y a pas de sanction. Bon, aujourd'hui, on a vu que les partis politiques la respectent. On fait l'effort de la respecter. Donc, on ose espérer qu'on n'a pas besoin d'aller jusqu'aux sanctions, jusqu'aux mesures coercitives.
Maître Francine Aka-Angui, la présidente de l'Association des femmes juristes de Côte d'Ivoire, était en ligne avec Linda Ballier. Une charte sur la réglementation de l'usage des réseaux sociaux vient d'être adoptée par les acteurs et actrices du web. Il s'agit des hommes et des femmes utilisant Internet comme moyen de communication. Activistes, blogueurs et influenceurs s'engagent ainsi à diffuser des contenus responsables sur le net. C'est une initiative de la ACA, la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle, qui les a réunis à cet effet hier jeudi à Abidjan. Le compte-rendu est signé Ghislain Koulibaly.
Cette charte comporte 7 principes présentés à l'assistance par Blandine Angbako, directrice exécutive du centre ESD, par ailleurs experte en éducation aux médias.
Les activistes et blogueurs influenceurs de Côte d'Ivoire s'engagent à respecter la vie privée et la dignité des individus en évitant toute atteinte à leur honneur, leur réputation ou leur vie personnelle.
Adoptée par acclamation, cette charte vient comme une alerte pour éviter la diffusion de contenus inappropriés en ligne. Maître René Bourgoin, président de la ACA.
La charte des réseaux sociaux est donc un appel à la responsabilité, à la transparence et également à l'éthique. Elle nous rappelle que vous avez un rôle essentiel à jouer dans la société en tant que voix influente et acteur du changement. Elle vous engage à respecter l'intégrité de l'information que vous diffusez et à promouvoir des valeurs socioculturelles fortes.
Et ces valeurs et principes doivent être vulgarisés avec l'appui des autorités ivoiriennes, nous dit Karine Oulaté, spécialiste digitale.
On doit imposer cette charte à toute personne ayant un minimum d'abonnés. On doit également partager cette charte dans les écoles, dans les enseignements, parce qu'il y a des jeunes qui ont de grosses communautés. Donc ça doit être l'affaire de tous. Le gouvernement doit vraiment s'impliquer. Une grande campagne de sensibilisation afin que cette charte soit réellement adoptée.
L'appropriation de cette charte des réseaux sociaux passera à travers une éducation numérique inclusive.
Nous le disions en titre, les chauffeurs des véhicules administratifs ne respectant pas le code de la route subiront la rigueur de la loi. C'est l'assurance donnée par le porte-parole du gouvernement lors du conseil du compte-rendu du dernier conseil des ministres. Il répondait ainsi aux journalistes qui ont évoqué le cas d'un accident mortel impliquant un véhicule de l'administration qui roulait en sens inverse il y a quelques jours à Abidjan. Écoutons les précisions du ministre Amadou Coulibaly, porte-parole du gouvernement.
Le respect des textes, notamment ici en la matière, celui du code de la route, s'applique à tout le monde. Si vous avez suivi l'intervention du ministre des Transports lorsqu'il lançait la campagne pour la stratégie nationale de la sécurité routière à Yamoussoukro, il a indiqué que pour ce qui concerne les véhicules administratifs, bientôt des dispositions allaient être prises pour rattacher le véhicule administratif à son propriétaire, de sorte que, en cas d'infraction, on puisse retrouver son administration et remonter à celui qui conduisait en ce moment-là le véhicule. C'est vrai qu'il y avait une situation qui faisait qu'on ne pouvait pas identifier facilement l'utilisateur d'un véhicule. Ce travail est en train d'être fait une fois de plus. Il y a la lenteur de l'administration, il y a une question donc de gestion des données qui permettent de faire ce travail. Mais une fois que ce travail aura été fait, ben on trouvera facilement tous les contrevenants. Dans le cas malheureux qui est arrivé, s'il y a eu un accident, vous savez, quand il y a un accident, même avec un véhicule de l'administration, il y a un constat qui est fait. Donc, je ne crois pas que l'utilisateur de ce véhicule, qui plus est à provoquer une mort d'homme, puisse échapper à la rigueur de la loi. Donc, je voudrais vous rassurer. En tout cas, sous le président Ouattara, il n'y a pas de passe-droit.
C'était le ministre Amadou Coulibaly, porte-parole du gouvernement. L'actualité, c'est aussi la situation climatique en Côte d'Ivoire. La SODEXAM, la Société d'exploitation et de développement aéroportuaire, aéronautique et météorologique en Côte d'Ivoire, annonce dans un communiqué de presse des périodes de sécheresse prolongées et imminentes dans le pays. Elles sont liées au phénomène climatique El Niño en cours dans le monde. Quelles seront donc les conséquences dans les différents secteurs d'activité? Quelles sont les dispositions prises pour pallier cette situation? Élément de réponse avec Daouda Kounaté, le directeur de la météorologie nationale à la SODEXAM.
C'est un phénomène qui prend naissance dans le Pacifique. C'est un impact climatique et de grande envergure cyclique qui intervient généralement chaque 5-7 ans de manière périodique au niveau mondial. Donc, c'est dû à des variations climatiques et la circulation atmosphérique en surface et en altitude. Ça va préoccuper la pluviométrie des pays du monde en général. Au niveau de la Côte d'Ivoire, ce phénomène a une série d'impacts sur la pluviométrie et les secteurs socio-économiques. Les conséquences indiqué par l'Organisation mondiale de la météorologie, c'est qu'il va y avoir des sécheresses prolongées au niveau mondial et également des non-disponibilités d'eau dans certains barrages. Et c'est ce qui explique un peu cette conséquence mondiale qui va se répercuter effectivement aussi au niveau national en Côte d'Ivoire. À l'instar des autres pays, il va y avoir des diminutions de pluviométrie en moyenne dans les prochaines années. C'est pour cela que nous parlons de sécheresse moyenne, puisque la pluviométrie va diminuer. Donc, les dispositions à prendre, c'est vraiment d'anticiper cette diminution de la pluviométrie en moyenne générale sur l'ensemble du monde et particulièrement en Côte d'Ivoire. Nous avons eu déjà une réunion avec les différents acteurs du monde agricole et il appartient maintenant à différents secteurs socio-économiques de prendre des dispositions en fonction de l'information qui a été donnée pour permettre à chaque acteur de trouver des solutions appropriées par secteur.
Daouda Konaté, le directeur de la météorologie nationale à la SODEXAM à l'instant sur Radio de la Paix. Nous ouvrons à présent la page de l'actualité africaine. Au Burkina Faso, une manifestation prévue mardi prochain à Ouagadougou par un collectif de syndicats afin de dénoncer des restrictions de liberté a été interdite par le président de la délégation spéciale de la commune de Ouagadougou, Maurice Konaté. qui invoque le contexte sécuritaire dans ce pays miné par les violences terroristes dans une lettre adressée aux syndicats et consultée ce vendredi par l'AFP. Un participant à la présidentielle et figure politique de premier plan au Libéria a conditionné son soutien en vue du second tour à la présidentielle à la création d'un tribunal pour crimes de guerre réclamé de longue date par la communauté internationale dans un entretien vendredi à l'AFP. Dans ce pays ravagé par une guerre civile qui a fait 250 000 morts entre 1989 et 2003, l'un des conflits les plus atroces du continent africain avec massacres, mutilations, viols, actes de cannibalisme et recrutement forcé d'enfants soldats, aucun procès ne s'y est à ce jour tenu, bien que plusieurs aient eu lieu à l'étranger. Et puis, hors du continent, le sommet européen s'est achevé ce vendredi après-midi à Bruxelles, en Belgique. La déclaration du sommet a appelé à des pauses dans les combats entre Israël et le Hamas pour acheminer l'aide à Gaza. Emmanuel Macron, le président français, est allé plus loin en appelant à une trêve humanitaire dans la guerre entre Israël et le Hamas pour pouvoir protéger ceux qui sont sur le terrain. Il a par ailleurs rappelé la volonté de la France d'évacuer dans les meilleurs délais ses ressortissants dans la bande de Gaza, rapporte l'AFP. Voici qui met un terme à cette édition, des 18h, le rappel des titres. Visite des chantiers de la sortie est d'Abidjan et de la Y4. Le premier ministre Robert Begré-Mambé a donné un délai de 45 jours à l'entreprise pour achever les travaux de la Y4. Sécurité routière, les chauffeurs des véhicules administratifs en infraction seront désormais sanctionnés, ainsi en a décidé le gouvernement. Et météo, la Sodexam annonce une longue période de sécheresse en Côte d'Ivoire dans quelques mois. Situation liée au phénomène climatique El Niño en cours dans le monde. Vous avez eu les éclairages du directeur météorologique national à la Sodexam dans ce journal. C'est ici qu'on s'arrête pour ce soir. Merci de votre aimable attention. L'actualité revient demain samedi à 7h. Nous vous souhaitons une bonne suite des programmes sur votre radio, Radio de la Paix. Dans quelques instants, le magazine humanitaire dans une présentation de Sonia Nzian.